La vérité dans un monde postmoderne, qui c'est quoi cette affaire-là un matin encore? Ça achève, c'est mon dernier d'une série dont j'avais prêché au mois d'avril et au mois de juillet sur l'humanisme dans un monde séculier. Et avez-vous déjà entendu parler, dire quelqu'un, peu importe ce que tu crois, le principal c'est d'être sincère. On entend ça souvent. Hein? Ou, toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions sont bonnes. Dans le fond, aucune n'est bonne. C'est la relation qui est avec Jésus qui est bonne. Donc, on entend. Et pour que quelqu'un dise que toutes les religions sont bonnes, il a pas réfléchi beaucoup. Quand tu penses à ça, là, tu sais, ça résiste vraiment pas à l'analyse. Il y a des religions qui sont vraiment terribles, qui oppriment les femmes et tout ça, qui viennent du diable. Donc, c'est pas vrai que tout est bon, puis que ta vérité, qu'est-ce qui est vrai pour toi est vrai et bon, qu'est-ce qui est vrai pour moi est bon. Non, il peut y avoir des choses qui sont fausses. Et il y a un membre du clergé qui a dit, du clergé catholique à la télévision, il disait, supposément si on trouverait les ossements de Jésus, les vrais, là, qui nous prouveraient que Jésus n'est pas ressuscité, ben moi, ça ne changerait rien à ma foi. Parce que ma foi, moi, j'ai décidé de croire, tout ça, puis même si Jésus n'est pas ressuscité, pour lui, c'était pas grave. Parce que sa foi n'était pas liée à des vérités objectives. Alors que la vraie foi, comme Thomas, lui, voulait être sûr que Jésus était ressuscité, il disait pas, c'est pas vrai, c'est pas grave, je m'embarque pareil, puis pas grave, je me ferai persécuter, c'est pas grave pour Jésus qui est mort, tu sais, qui n'est pas ressuscité. Non. Donc, notre foi ne doit pas être basée sur quelque chose qui est subjectif, qui est flou, mais sur la vérité, sur des bases solides. Jésus dit qu'il était le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Un résumé vite. Quand j'ai parlé de l'humanisme, ça date de quelques siècles, plusieurs siècles là, même. C'est comme dans le cœur de l'homme, où l'homme désire remplacer, lui prendre la place de Dieu. Et au lieu de dire que c'est Dieu qui dirige notre destinée, c'est Dieu qui doit nous dire quoi faire, non, c'est l'homme qui doit contrôler sa destinée, l'homme est capable. Et c'est ça l'humanisme, ça vient de l'humain, c'est l'homme qui va le faire. Et aujourd'hui, nous avons une société qui est de plus en plus humaniste, où c'est l'homme qui est en premier au lieu de Dieu. Ce que dit l'homme, ce que pense l'homme, c'est ça qui est le plus important. À travers tout ce courant de pensée humanisme, là, qui transcende nos sociétés, il y a des époques, comme on a eu la Renaissance, l'époque des Lumières, il y a eu l'époque moderne, et là, il y a l'époque postmoderne. Je vais expliquer un peu pourquoi c'est quoi moderne par rapport à postmoderne. En gros, vite, là, c'est que dans l'époque moderne, les gens disaient, bon, l'homme peut raisonner, l'homme est intelligent, l'homme peut s'en sortir lui-même, l'homme est même capable de découvrir la vérité. La science est vraiment importante. Sauf que, avec les deux guerres mondiales qu'on a eues, l'homme a réalisé que, malgré notre intelligence, on ne peut pas atteindre le progresser. Ça fonctionne pas. Donc, l'époque de la raison, qui était l'époque moderne, ils ont été comme désabusés. Puis là, ils ont dit, bon, la raison n'existe plus, donc il n'y a plus de vérité. Et c'est ça qu'on appelle l'époque postmoderne, après les guerres mondiales. Principalement depuis le début des années 80, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'époque postmoderne, c'est-à-dire qui vient après l'époque moderne, où, en gros, on dit, il n'y a plus de vérité. Il n'y a pas la peine de chercher la vérité. T'as ta vérité, j'ai la mienne, achète-moi pas. Puis c'est un peu ça, le danger qu'on a comme chrétien, difficulté de prêcher de l'Évangile, parce que aujourd'hui, les gens disent que la vérité n'existe pas. On peut pas la trouver. Tout est relatif. Et on va lire un texte. D'habitude, ça marche sur le moniteur, là, mais je vais lire là-dessus. Donc, le texte est dans Jean, chapitre 18, versets 36 à 38. Et ici, Jésus se retrouve devant Pilate. Et Pilate a le pouvoir de vie ou de mort sur lui. OK? Donc, on lit le texte. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, ça voulait dire qu'il est roi. Donc, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde. » Donc, Jésus ici donne la principale raison pour laquelle il est venu. « Voici pourquoi je suis né, pourquoi je suis venu dans le monde. » Pourquoi? « Pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, Jésus voulait qu'on vive dans la vérité, qu'on connaisse la vérité. Il ne voulait pas qu'on soit dans le mensonge. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Donc, si on avait Jésus qui est la vérité lui-même devant Pilate, et Pilate dit, c'est quoi la vérité? Il l'avait en avant de lui. C'est lui qui était venu pour rendre témoignage à la vérité. Si vous voulez, on va prier. Notre Dieu, on te remercie pour ce moment que tu nous donnes ensemble, ce lieu et le temps qu'on a pour venir ouvrir ta parole et regarder ce que tu as à nous dire, Seigneur, concernant la vérité. Notre Dieu, on ne veut pas te prier seulement pour la forme, mais on te prie vraiment que tu sois avec nous ce matin, que tu parles à nos cœurs, que tu nous révèles des choses. Et Seigneur, tu nous dis que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je te prie d'enlever dans nos cœurs, dans nos têtes, les mensonges que le malin aurait mis et que tu les remplaces par ta vérité à toi, car toi, tu es la vérité. Et on le prie dans le nom de celui qui est la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, pourquoi est-il important de connaître et de défendre la vérité dans notre monde? Bien, Jésus, il dit qu'il est venu sur terre pour ça, pour qu'on la connaisse, la vérité. C'était le but de sa visite. Donc, on doit vouloir connaître la vérité. OK? Et sans la vérité, on ne peut pas reconnaître Jésus, on ne peut pas être sauvé. On ne peut même pas demander pardon de nos péchés. Donc, si on n'a pas la vérité. Et la Bible dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Il n'y a aucune vérité qui vient de lui. Et il est subtil aussi. Il y a des façons d'amener l'erreur, de nous tromper, qui sont vraiment subtiles, et qui fait tomber l'homme, qui les envoie en enfer. Donc, il utilise tous les moyens, ça fait plusieurs milliers d'années, quelques milliers d'années, qu'il use de ruses pour nous détourner de la vérité et nous contrôler et nous amener en enfer. Et donc, le but de mon message, c'est un peu ça. Stop. Assez de mensonges. Assez de mensonges. Et Jésus est venu pour nous délivrer. Dans Jean 8, 32, nous lisons, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » On n'est pas esclave de personne. Hein, les pharisiens disaient ça. On n'est pas esclave de personne. Oui, on est esclave de celui à qui on obéit. Et lorsque je n'étais pas chrétien, j'obéissais au péché, à mes désirs, mes pulsions, à tout ce que le monde pensait qui était correct, entre guillemets. Et c'était moi qui contrôlais ma vie, mais je n'avais pas de vérité. Je n'agissais pas selon la vérité. Quand j'ai connu la vérité, ouf, la vie a changé radicalement. Parce que là, on s'est mis à agir selon la vérité. Et lorsqu'on est dans le péché, on ne réalise même pas des fois qu'on est esclave du péché. Mais quand on est libéré, quand Jésus nous libère et qu'on a la vie éternelle, on est libéré de nos péchés, on ne s'en va plus à la perdition éternelle. Donc, Jésus est venu pour ça, pour qu'on connaisse la vérité. Donc, c'est important de défendre la vérité. Et la vérité est le nœud de la guerre spirituelle. Dans tout conflit, des fois, un juge en cours, il veut connaître la vérité. Donc, la vérité est vraiment importante et Jésus voulait qu'on la connaisse. Donc, la guerre contre la vérité, notre société est en guerre contre la vérité et c'est ça qui est l'époque postmoderne. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure. En quoi est-ce que cette époque-là dans laquelle on est vient affecter la notion de vérité? Bref, historique, j'ai parlé de l'époque moderne qui venait après la Renaissance, où on se fiait en l'homme, en la raison, et on essayait de trouver la vérité par la raison. Et la raison était la clé du progrès et du bonheur. Et là, l'homme est arrivé, s'est aperçu qu'à cause des conflits mondiaux qui sont arrivés, que, malgré son intelligence, l'homme ne réussissait pas à réussir ou à progresser. Donc, on est tombé, ils n'ont pas dit, on va dans l'époque postmoderne, mais veut, veut pas, on est tombé dans une société où on remplaçait la raison par le sentiment. Et il y a un chrétien, M. Francis Schaeffer, qui a écrit un livre. Le titre de son livre, ça s'appelait « Démission de la raison ». Plus de raison. Donc, on s'est dit « La vérité n'existe pas. Le sentiment et l'expérience priment la pensée et la raison. Le plaisir est plus important que le devoir. » Et il y a eu une croissance de tout ce qui était mystique, spiritualité mystique, dont, entre autres, le Nouvel Âge. Et dans tout ça, où on dit « Plus personne n'a raison, ma vérité est la mienne, la tienne est la tienne », il y a un rejet de l'autorité. Parce que quand il y a une autorité, ça veut dire qu'il y en a un qui a raison, il y en a un qui contrôle, et on rejette rejette l'autorité. On le voit maintenant dans les familles, dans les écoles, dans la société, dans les bureaux, que l'autorité, on a de la difficulté à accepter l'autorité maintenant. Parce que ça, c'est vrai pour toi, mais pour moi, c'est pas vrai. Je suis pas obligé de me soumettre. Okay? Et ça peut paraître même dans l'autorité dans l'Église et l'autorité de la parole de Dieu aussi. On va voir ça tout à l'heure un petit peu pour la parole de Dieu. Un auteur, M. Alfred Kuen, dans son livre « Les défis de la postmodernité » a écrit « Ce que recherche l'homme postmoderne, ce ne sont plus des vérités, mais des expériences et des sensations. » Donc, on veut avoir des choses qui vont nous faire du bien. Donc, des expériences et des sensations. C'est sûr que le salut comme tel en Jésus-Christ, notre relation avec Dieu, est une expérience bonne, qui fait « wow » aussi, mais qui est basée sur la vérité. Donc, c'est pas une expérience qui est basée sur du flou, une expérience qui est basée sur la parole de Dieu, sur Jésus qui est le rocher. Et cette expérience-là nous donne quand même des émotions lorsqu'on vient à Jésus, lorsque Jésus nous remplit, lorsque Saint-Esprit nous remplit, on est joyeux, on est content. Donc, des sentiments, des émotions qui sont là, mais c'est pas ça qui est la base. C'est vraiment la relation qu'on a avec Jésus sur la base de la vérité. Un philosophe, M. René Descartes, disait « La seule certitude est celle de ma propre existence. » Pas compliqué, ça, hein? Donc, la seule chose qui est certaine, c'est que je suis là et que j'existe. Il n'était même pas sûr que les autres étaient du vrai monde. Il y avait juste lui. Donc, c'est sûr qu'il ne croyait pas que Dieu existait. Avez-vous déjà entendu de toute façon, tout est relatif. Ce qui est vrai pour toi n'est pas nécessairement vrai pour moi. Vérité pour toi. Donc, aujourd'hui, la vérité est multiple. Il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Quelque chose, hein? Donc, on est passé d'un monde d'absolu, d'objectivité et de rationnel, de raison, à un monde où tout est relatif, tout est subjectif, et où la tolérance doit primer. Parce qu'on ne peut pas imposer notre vérité. Et le plus grand commandement de la société postmoderne, c'est vous devez vous tolérer les uns les autres. Vous devez vous tolérer les uns les autres. Et il y a un M. Charles Colson dans un livre qui s'appelle « How Now Shall We Live? »« Comment maintenant devons-nous vivre? » Il dit « La tolérance est devenue quelque chose de tellement important qu'on ne tolère aucune exception. » Dans le fond, le fait que tu dois tolérer, ça devient intolérant. Et pourquoi? Je peux avoir des croyances, mais j'ai pas le droit d'essayer de persuader quelqu'un d'autre de mes convictions. Donc, comme chrétien, le fait que je parle de l'Évangile, puis je dis, hey, tu devrais croire à Jésus, c'est merveilleux. Oh non, non, non. On n'a comme pas le droit. Pourquoi? Parce que ça signifie que ma croyance est supérieure à la sienne. Vu que je veux lui imposer, je vais dire, non, tu devrais pas croire ça, tu devrais croire ça. Donc, qu'est-ce que moi je pense? Ma croyance est supérieure à la sienne. Donc, vu que je veux lui imposer, c'est comme si moi j'étais supérieur à lui. Et ça, c'est de l'intolérance d'après notre société. Une attitude d'intolérance. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vis. Donc, c'est vraiment, je dirais pas le concret, là, mais c'est le présent. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis ici, que vous êtes là. C'est vrai, ça, hein? C'est pas compliqué. Donc, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je pense. C'est ça, la vérité. Ça finit là. OK? Mais il y a des vérités qui sont plus grandes que ça, qui influencent notre quotidien. Il ne faut pas arrêter là. D'après un sondage, 98% des Américains disent qu'ils croient en Dieu, mais en même temps, seulement 25% de ces Américains-là croient qu'il existe une vérité absolue. Donc, ce qu'on parle de vérité absolue, c'est que, bon, Dieu est créateur, Jésus est né pour nous sauver. Vérité absolue, on peut pas déroger à ça. Donc, 98% croient que Dieu existe, mais juste 25% croient qu'il y a une vérité. C'est assez paradoxal. Assez paradoxal. Pourquoi est-ce que les gens rejettent la vérité? C'est à la base, Jésus le dit, c'est que les gens veulent continuer à vivre sans se soucier de Dieu, continuer dans leur péché, parce que la vérité dérange. Je me souviens, quand je lisais la parole de Dieu, j'aimais pas ça. Ça me dérangeait et j'aurais voulu qu'elle soit pas vraie. J'essayais de comparer les évangiles, voir les contradictions, entre guillemets, pour essayer de la rejeter. J'aurais été capable de la rejeter, de dire que c'est pas vrai. Mais non, la parole de Dieu me disait qu'il fallait que je change, que j'étais orgueilleux, que j'étais pécheur, voleur, menteur. J'aimais pas ça. Puis que j'allais en enfer si je donnais pas ma vie à Jésus-Christ, je reconnaissais pas mes péchés. J'aimais pas ça du tout. Je voulais pas changer, moi. Je voulais pas laisser ma gang avec qui j'avais du plaisir, qui était mon c'était ça que je m'identifiais. J'étais quelqu'un à cause de qu'est-ce qu'eux pensaient de moi et tout ça. Mais là, il fallait que je rejette tout ça. Tout ça. J'aimais pas ce que je lisais. Et aujourd'hui, quand je le lis, c'est comme une lettre d'amour. Je suis passé dans l'autre clan, là. Je suis près de Dieu. C'est différent. Mais à la base, les hommes, n'aiment pas la parole. On voit ici dans Jérémie, chapitre 6, verset 10. Voici que la parole de l'Éternel est pour eux un déshonneur. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Donc, quand tu vis dans le péché, tu trouves aucun plaisir dans la parole de Dieu. Contraire du psalmiste qui dit « Je fais ma joie de la loi de l'Éternel. » Il en jouissait de la loi de l'Éternel. Deux autres versets ici, dans trois versets. Dans Jean, chapitre 3, versets 19 et 21, ici, c'est la parole de Jésus. Il dit « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Donc, c'est pour ça que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres sont mauvaises. Et si la lumière fait lumière sur les œuvres, oh, ben là, ça va dévoiler qu'ils sont pécheurs. OK? Nous continuons verset 20. « Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées ou dévoilées ou contrecarrées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Donc, lorsqu'on veut qu'on est sincère, qu'on veut être sauvé et qu'on n'a plus peur de ce qu'on croit, plus peur de ce qu'on fait, plus peur des œuvres qu'on fait en Dieu, bien là, on vient à la lumière. On n'a pas peur de la vérité. Comme croyant, on cherche la vérité, on la veut, la vérité, on a soif de vérité. C'est notre base, c'est notre sécurité, la vérité. OK? Puis une grande vérité, c'est que Jésus nous aime plus qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Et aujourd'hui, les gens n'ont même pas besoin de dire que la Bible n'est pas vraie. Ils ont simplement à dire que la vérité n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a rien de vrai. Donc, il n'y a pas besoin de prouver que la Bible n'est pas vraie. Donc, comme je disais tout à l'heure, les gens ne croient que ce qu'ils voient, que ce qu'ils expérimentent actuellement. Des gens vont aller jusqu'à nier l'Holocauste. On connaît tous l'Holocauste, un génocide. En Allemagne et en Europe, de 6 millions de Juifs par les nazis. 6 millions. Et il y a des gens qui prétendaient que non, ça n'a jamais arrivé. Il y a encore des témoins aujourd'hui, là. Et même il y a des pays d'Europe, plusieurs pays qui ont adopté une loi interdisant de nier l'Holocauste. En Italie, l'Italie a adopté en 2016 une loi imposant une peine de prison à quiconque serait trouvé coupable de nier l'Holocauste. C'est drôle, hein? Quelque chose qui est une évidence même. Pourquoi certains vont nier l'Holocauste? Ben, les personnes se sentent coupables parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Ils n'ont plus participé à ça d'une façon ou d'une autre. Ou, ça se peut pas que l'homme ait fait ça. C'est trop grave. C'est inhumain. C'est impossible. C'est impossible qu'il soit arrivé. Ça se peut pas. L'homme n'est pas si méchant que ça. N'essayez pas de me faire croire que l'Holocauste existait. Vous voyez? Comme on dit, c'est impossible que les non-croyants aillent en enfer. C'est impossible. Donc, on a nié l'Holocauste, même si on avait des preuves. Il y a encore des gens. Et à l'émission Tout le monde en parle, il y avait trois Juifs qui étaient venus, qui avaient les rescapés des camps nazis. Et Guy Lepage a demandé au monsieur, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que l'Holocauste n'est jamais arrivé? Le monsieur a dit, j'aimerais qu'ils aient raison. Il dit, j'aurais pas tant souffert. Fait que c'était clair. Maintenant, sur la vérité, on a l'influence de l'Internet. Internet permet de connaître plein de choses, puis c'est rapide. Sauf que, on a une quantité d'informations, mais on n'a pas nécessairement la qualité d'informations. Il y a plein de choses, il y a plein de canulars aussi, des choses qui avaient l'air vraies, parce que ça avérait faux. Donc ça rend sceptique. Aussi, les prédictions de la fin du monde, des gens qui ont prédit la fin du monde, c'est pas arrivé. Mais ça rend les gens sceptiques. La vérité, c'est que Jésus va revenir telle date. Ah oui, je vous dirai plus tard la date, tantôt, quand on va partir. Faites-moi les passer. Donc, on se souvient, à la fin du calendrier Maya, en décembre 2012, il y a eu quelques livres qui ont été écrits sur la fin du monde, 21 décembre, en tout cas, c'était décembre 2012. C'est pas arrivé encore. Okay. Donc, ça, voyons, il n'y a rien de vrai dans le monde. Les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde plusieurs fois, la guerre de l'Armageddon plusieurs fois, c'est jamais arrivé encore. Et il y a des prédicateurs américains qui vont avancer des dates aussi. Et ça crée vraiment de l'insécurité ou de l'incertitude, et on fait rire de nous autres. Jésus n'a pas donné de date, mais il a donné des signes. C'est ça que Jésus nous a donné. Quand vous verrez ces choses apparaître ou arriver, vous saurez que la fin est proche. Il n'a pas donné de date. Et lorsqu'on dit qu'on parle aux gens que la fin du monde, c'est vrai, le jugement dernier, c'est vrai, ils rient de nous autres. Parce que ça a été annoncé tellement de fois que... Ben non, tu vois, ça n'arrivera jamais. Comme quand on crie au loup, puis il n'y a pas de loup. Quand le loup arrive pour vrai, on dit, ah, il n'y en a pas, mais là, c'est vrai. Donc, c'est la même chose. Donc, la vérité est comme amenuisée. Là. Donc, la défense de la vérité. Est-ce que la vérité existe et est-il possible de la connaître? Excusez. Voilà. On voit pas tellement le monsieur, mais il y a plusieurs chemins. Et c'est comme si la vérité, j'ai montré tantôt, la vérité est multiple, c'est comme s'il y avait plusieurs vérités. Mais il y en a seulement une. Donc, comme je disais, il y a des choses qui sont des vérités objectives et d'autres qui sont des vérités relatives. Je vais vous dire, il y a des goûts, des perceptions qui peuvent être vraies pour toi et pas vraies pour moi. Je vous donne un exemple. Ma fille, elle aime la coriandre. Moi, je déteste la coriandre. Mais pour elle, c'est vrai que c'est bon, mais pour moi, c'est vrai que c'est pas bon. OK? La même chose. Donc, c'est une question de goût et de perception. OK? Quelqu'un va trouver que tel acteur, il est beau. Moi, je le trouve pas beau. Qui a raison? Question de goût, de perception. Supposément, une jeune fille me trouve beau, la première. La deuxième me trouve pas beau. Qui a raison? Dis pas niaiserie. Ah, la vérité là-dedans, c'est que la première a besoin de faire ajuster ses lunettes. Mais, tout simplement pour dire que la question de goût, ça, on peut avoir des peu différents. Supposément, madame a le chaud, monsieur a froid. Ça arrive, ça, tu sais. Période de la saison, les femmes. Et il fait chaud, mais il fait froid. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il fait chaud, pour toi, c'est vrai qu'il fait froid. Ou le contraire. Donc, ça, on peut pas discuter ça, c'est une perception que comme tu le sens. Mais il y a des choses qui sont des faits et non simplement une question de goût et de perception. Des choses qui sont vraies, qui sont immuables, des vérités qui sont pas subjectives, mais objectives. Et vérité objective, c'est pas parce que je ne peux pas la connaître qu'elle n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce que je ne crois pas en Dieu qu'il n'existe pas. C'est pas moi qui va le faire exister. Je vous donne un exemple de vérité objective. La triste disparition et du meurtre de la petite Cédrica Provencher. Donc, l'an passé, par exemple, est-ce qu'on connaissait l'histoire? Est-ce qu'on connaît toute la vérité sur cette histoire? On ne connaît pas toute. L'an passé, par exemple, on pouvait dire peut-être qu'elle est vivante encore, peut-être qu'elle est décédée. Je pouvais être convaincu qu'elle était décédée ou convaincu qu'elle est vivante, mais qui avait raison. Sauf que la vérité existait. La vérité existait parce que donc, lorsqu'ils ont trouvé les ossements de la petite Cédrica, là, ça s'est confirmé. Bon, elle est décédée. Donc, ceux qui pensaient qu'elle était vivante, ben, ils étaient trompés. Ceux qui pensaient qu'elle était décédée, ils avaient eu raison. Mais la vérité était là, peu importe ce que je pensais. Donc, la vérité existait, peu importe ce que je pensais. Si on va un petit peu plus loin, aujourd'hui, on peut dire, bon, allez, c'était un meurtre. Qui a fait le meurtre? La Société du Québec a dépensé des milliers de dollars, des milliers d'heures pour essayer d'élucider, trouver le coupable, il y a un suspect. On n'a aucune certitude, mais la vérité existe parce qu'il y a quelqu'un qui la connaît. Okay? Et même si je ne peux pas connaître la vérité là-dessus, la vérité existe. C'est ça que je veux vous dire. Donc, je pense qu'on ne peut pas savoir, connaître, tout savoir, que la vérité n'existe pas. Donc, la vérité existe, il y a quelqu'un sur Terre, au Québec, s'il est vivant, qui sait vraiment qu'est-ce qui est arrivé avec certitude. Donc, la vérité, elle existe. Un jour, je souhaite qu'on va la découvrir. Donc, c'est un exemple pour dire qu'il y a des vérités qui sont objectives, des faits qui existent, qui sont là, même si on ne les connaît pas. Et donc, ces vérités-là ne dépendent pas des situations, de la culture, des opinions. Et une vérité objective, ça demeure vrai, même si personne ne la croit. Et notre foi est basée sur des vérités objectives. Quelques vérités objectives, je ne les ai pas tous ici, toutes. Donc, il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. La Bible est la parole de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés. Donc ça, c'est vraiment objectif, c'est la vérité, c'est pas des illusions. Jésus est ressuscité. Nous sommes sauvés par grâce sans les œuvres. Jésus reviendra un jour pour juger le monde. Donc, ça, ce sont des non négociables. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais ce sont quelques non négociables de la foi chrétienne qui sont des vérités objectives sur lesquelles on peut s'appuyer. OK? Mais ça, c'est contesté par beaucoup de gens. C'est sûr, les gens qui ne croient pas à la Bible, ils vont contester ça. Mais ce sont des vérités objectives. J'étais au camp Patmos cet été, et M. Robert Charpentier, qui apportait une prédication, il parlait entre autres de la vérité. Et lui, il a été plusieurs années enseignant dans une école chrétienne. Et il avait fait venir quelqu'un pour donner son témoignage. C'était un pilote d'avion. Donc, il avait pris quelqu'un qui avait une certaine crédibilité. Tu sais, les gens lui font confiance pour leur vie. Là. C'est lui qui les conduit au bon aéroport. Donc, le pilote d'avion était venu devant la classe. Et dans ce temps-là, ben, c'était des écoles chrétiennes qui pouvaient s'afficher, tout ça. Et la première phrase qu'il a dit, le monsieur, c'est « Je suis chrétien parce que c'est vrai. » « Je suis chrétien parce que c'est vrai. » C'est sûr que la phrase est drôlement faite. Sauf que si je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que c'est la vérité, c'est ça. Si c'était pas vrai, moi non plus, je serais pas chrétien. Si c'était pas vrai, vous ne seriez pas non plus. Donc, on n'est pas chrétien, on va l'essayer, on va voir si ça marche. Oh, ça change ma vie. Ah, c'est le fun, une belle gang de monde, une belle ambiance. Non. On est ici, on croit en Jésus, on prie, on lui a donné notre vie parce que c'est vrai. Et Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, notre foi est basée sur des vérités objectives. Et on a besoin de vérité pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Comme un juge entend les témoins, les avocats, il essaie de trouver la vérité pour ne pas condamner un innocent ou innocenter un coupable. Ça peut être dans un couple. Dis-moi la vérité, es-tu fidèle? Hein, on veut la savoir. Si jamais ça arrive, on veut connaître la vérité. Donc la vérité est importante parce que le mensonge est... détruit les relations. On a appris ça à nos enfants assez jeunes, que le mensonge, c'est un fléau qui détruit les relations. S'il n'y a pas de vérité, les relations sont détruites. Une autre citation ici de M. Alfred Kuen, dans son livre « Les défis de la postmodernité », il dit « Nous sommes bien plus que nous ne le pensons influencés par les idées dominantes de notre temps. D'autant plus que nous avons davantage que nos devanciers, c'est-à-dire les gens avant nous, davantage à l'influence des divers médias, journaux, revues, radio, télévision, Internet. » Donc, dans notre société, on est plus influencé par les médias, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et de plus en plus. Et on est influencé plus qu'on le pense par les pensées dominantes de notre temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le psalmiste disait, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Donc, quand les fondements sont plus là, quand il n'y a plus de vérité, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelques conseils ici. La première, c'est, je dis, défi du croyant dans un monde post-moderne. Donc, quels sont les défis qu'on a en regardant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ou l'absence de vérité? Le premier, c'est résister à la lecture post-moderne d'un texte biblique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai dit tout à l'heure, on dit, qu'est-ce qui est vrai pour toi n'est pas nécessairement vrai pour moi. Et c'est un peu ça. On peut lire la Bible puis dire, bon, ce texte-là, il veut dire telle affaire pour toi, mais pour moi, il veut dire telle autre affaire. Bon. Je comprends que des fois, il y a une vérité du verset qui me touche, moi, puis une autre vérité qui va toucher l'autre. OK? Ça, on peut s'entendre là-dessus. Mais si on veut connaître donc, on a les deux raisons, parce que le verset, c'est un ensemble de vérités. Sauf que, on ne peut pas arriver à des conclusions complètement différentes sur un même passage des Écritures. Qu'est-ce qu'on doit chercher? C'est ce que l'auteur a voulu écrire, l'opinion de l'auteur, ce que le Saint-Esprit a voulu révéler. C'est ça qui est important et non pas qu'est-ce que moi je pense que ça me ferait du bien si je voyais ce verset-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'herméneutique, là, l'étude des Écritures, connaître le contexte, à qui ça a été écrit, pourquoi, etc. Donc, ça aide à comprendre la pensée de l'auteur. Donc, il faut résister à la pensée de dire, bon, on va prendre ce texte-là, là, puis, ah, moi, ça veut dire ça, toi, ça veut dire ça, toi, ça veut dire ça. Non, il y a une pensée unique qui est là, qu'il faut découvrir ensemble. Après qu'on a découvert la pensée de Dieu, moi, ça me touche dans tel domaine, toi, ça va toucher dans tel autre domaine, parce qu'on a tous des besoins. Mais le texte, la vérité, elle est là. Elle est unique, elle n'est pas multiple. OK? Et la vérité n'a rien à voir avec l'opinion ou l'imagination d'une personne. La vérité est ce que Dieu dit qu'elle est. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu, la Bible révélée. Ensuite, ça va un peu dans le même sens, prendre la parole de Dieu au sérieux. On peut avoir une tendance à prendre dans la Bible les versets qui font notre affaire. Il y a des versets que j'aime pas, qui me dérangent. Ça m'obligerait à changer. Je les passe, je ne m'en occupe pas trop de ceux-là, mais il y en a qui me font vraiment du bien là, quand j'ai de la peine. Ces versets, ce psaume-là, c'est vrai qu'il faut avoir des versets sur lesquels on va s'accrocher parce qu'on est sujet à avoir des épreuves, des difficultés. Mais il faut prendre la Bible dans son ensemble. Et même si c'est des choses que j'ai de la difficulté parce que ça m'exige un changement, ben, c'est la vérité est là. Et comme je disais, dans le monde postmoderne, on est porté à prendre juste ce qui fait notre affaire. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, pas prendre seulement les passages qui nous font plaisir. Pas faire comme si j'avais le compte à rendre à personne. Parce que j'ai des comptes à rendre à Dieu, son enfant. Et le fait qu'on lit la Bible, qu'on prenne juste ce qui fait notre affaire, c'est pas correct. C'est pas correct devant le Seigneur. Et c'est comme si on... Parce que dans notre monde, on a de la difficulté avec l'autorité. Et la Bible est une autorité. Et quand on lit ça, ça m'oblige à changer et on n'aime pas ça. Donc, parce que l'autorité est perçue comme mauvaise parce qu'elle vient me limiter à mon plaisir, dans ma liberté. Alors que ce n'est pas le cas. L'autorité de Jésus est vraiment une autorité qui nous affranchit du péché, qui nous transforme. Un autre danger, c'est ne pas être plus attiré par l'expérience que par la vérité. Dans notre société, on est davantage attiré par ce qui est attrayant que par ce qui est vrai. Donc, qu'est-ce qui est le fun? Aujourd'hui, c'est pas « est-ce que c'est vrai? » La question que je me pose, mais c'est plutôt « si tu le fun, ça va-tu me faire plaisir? Si tu es agréable? » Agréable. Donc, c'est bon d'étudier la parole de Dieu pour développer un discernement et être capable de discerner le vrai et le faux, pas juste qu'est-ce qui est agréable, qui me fait plaisir, mais qu'est-ce que Dieu veut. Un autre défi, c'est de continuer d'affirmer que Jésus est le seul chemin. Oups, c'est pas la mode, ça. C'est pas la mode du tout que Jésus est le seul chemin, parce qu'on dit qu'il y a plein de vérités, plein de religions. Quand tu dis que Jésus est le seul chemin, on est prétentieux aujourd'hui quand on dit ça. Il nous dit, t'es prétentieux, pour qui tu te prends, toi, là? De plus en plus, puis tu es intolérant, affirmer que Jésus est le seul chemin. Et certains théologiens ont commencé à plier parce qu'il faut s'ajuster aussi. Encore M. Cuen, dans son livre, disait « La tendance actuelle, bien en vue, est de refuser la prétention du christianisme d'être la seule vraie religion. » Donc, c'est pas une religion, mais il a employé ce mot-là. Donc, le fait que le christianisme soit le seul vrai, les gens ont tendance à refuser ça. Le pasteur Jean-Paul Humbert, président de l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine, ici en France, écrivait « Le christianisme est à un tournant tout à fait décisif de son histoire. Il est urgent qu'il s'ouvre au dialogue en reconnaissant qu'il est une voix parmi d'autres. » Ourc! Ça me donne mal au cœur, moi. Hein? Une voix parmi d'autres. Hey, mais allez où tu veux, mais ça n'a pas de bon sens. Jésus dit « Je suis le seul chemin. » Et c'est de valeur que c'est un théologien en autorité qui dit ça. Donc, c'est une tendance. Donc, il faut résister à ça. Et on va voir on va passer de plus en plus pour des radicaux Il n'est pas radicaux, mais peut-être, éventuellement, au niveau biblique, OK, de croire à ça. Puis des fous. L'apôtre Paul disait, la folie de la croix est une folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Donc, c'est vrai que c'est une folie, ça l'a toujours été. Mais c'est la vérité, on ne peut pas y déroger. Et la vérité est là. Pierre disait dans Actes chapitre 4, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. » Donc, il n'y a aucun autre prophète, aucun autre nom. Jésus seul. Et Jésus le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, quelques suggestions maintenant pour rejoindre le non-croyant. Il ne faut pas être défaitiste. C'est un peu défaitiste que je vous ai apporté là. Mais il ne faut pas baisser les bras et dire, « Ah, il n'y a rien à faire. » là. Mais Jésus veut sauver des gens encore, les gens de notre époque. Et il ne veut pas qu'on baisse les bras. Et Jésus est tout-puissant, il peut sauver encore. Et il fait des miracles dans le monde musulman, ou des endroits qui étaient sous le régime communiste, qui étaient fermés, où les gens étaient persécutés. Jésus fait des miracles. Donc, il peut le faire ici, il peut le faire encore n'importe où. Et il y a des réveils dans le monde. Donc, si Jésus vous a sauvé, il est capable d'en sauver d'autres. Moi, s'il m'a sauvé, qui avait un cœur endurci, qui ne voulait rien savoir, il est capable d'en sauver d'autres. Et c'est lui qui m'a amené au Seigneur quand j'ai dit que je t'ai sauvé, il ne me croyait pas. Il dit, pas toi. Peut-être un autre, mais pas toi. Parce que j'étais vraiment contre tout ça, puis c'est vraiment rebelle à la vérité. Nous lisons dans Ecclésiastes, chapitre 11, verset 3, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et donc, même si les gens disent on ne croit pas, il y a quelque chose en dedans. Il y a de quoi de plus que ça. Je me souviens même mon père, là, qui n'était pas chrétien, il disait, ça se peut pas là, qu'il n'y ait pas de Dieu. Garde ça la grandeur et tout ça, OK, de l'univers. Donc, l'absence de vérité et d'absolu, ça crée un vide dans le cœur de l'homme. Et tous les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie ont un vide. Et malheureusement, les attaques terroristes aujourd'hui, ça insécurise beaucoup de monde. D'un autre côté, ça rend les gens, l'insécurité collective rend les gens plus ouverts à l'Évangile. Ils s'aperçoivent que, oups, la vie va avoir une fin à un moment donné, il y a du danger. Donc, il y a encore de la place pour prêcher. Donc, suggestion pour rejoindre un non-croyant. J'ai mis suggestion parce que j'ai pas la science infuse et au début j'avais mis comment rejoindre un non-croyant, mais je suis pas un spécialiste évangéliste et j'ai quelques idées que je vous soumets pour vous aider à réfléchir. Donc, résister à la tentation d'annoncer une vérité diluée. Le péché, quand on prêche l'Évangile, c'est pas juste une mauvaise habitude hein, ou une erreur. Une erreur. Pour que la personne soit sauvée, il faut qu'elle reconnaisse vraiment son état de pécheur devant Dieu, pécheur pourri, perdu, impossible de rejoindre un Dieu saint, parfait, immaculé. C'est la prémisse au salut, ça, d'être reconnaître notre condition de pécheur. Donc, pas dire, ah, c'est une mauvaise habitude, c'est une erreur, tu sais, c'est adultère, c'est juste une erreur, tu sais. Donc, c'est une transgression de la loi morale de Dieu. Le péché entraîne même un petit péché qu'on peut dire, oh, c'est juste un petit mensonge, un petit vol. Non. Le péché, je peux dire j'en ai jamais fait, je me souviens pas. Okay? Mais juste mon attitude de vouloir contrôler ma vie par moi-même, c'est de rejeter Dieu, c'est déjà un péché. Okay? Donc, veux pas, l'homme sans Dieu est dans le péché. On reste pécheur, mais quand même, on est purifié de nos péchés. Donc, parce que le péché est grave, parce qu'il entraîne la séparation avec Dieu, la mort spirituelle et la perdition. Et Jésus est mort à cause du péché. Et c'est sûr que lorsqu'on prêche l'Évangile, il faut parler de l'amour de Dieu. Il ne faut pas passer sous le tapis le fait que le péché est là. Et c'est à cause du péché que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous sauver de la perdition éternelle. Une autre chose qu'il y a besoin de comprendre, c'était long un peu, comprendre que la grande majorité des Québécois n'a pas de notion de ce qu'est Dieu. Ils pensent qu'il est impossible de connaître la vérité. J'avais, dans le temps qu'on faisait le profil spirituel là, à l'expo, j'avais été quelques fois là, pour aider avec ça. Et j'étais surpris de voir les gens, parce que nous, dans notre monde chrétien, là, on croit en Dieu. J'étais surpris de voir comment les gens, là, Dieu, c'était flou, c'était vraiment vague, cette affaire-là. Puis, ouf, Surtout les jeunes, ils n'avaient pas de notion de Dieu. Les parents n'en avaient jamais parlé. On remonte vraiment loin. Dans les années 50, 60, les Québécois croyaient en l'existence de Dieu à cause du catholicisme. Le catholicisme ne nous conduisait pas au salut, malheureusement, à l'époque. Aujourd'hui, la majorité, mutuellement, le catholicisme nous fait passer proche de la croix, mais à côté. Okay. Mais à l'époque, au moins les gens croyaient en Dieu. Lorsqu'on parlait de Dieu, il s'agissait à ce moment-là de dire que les religions catholiques n'étaient pas bonnes, que les gens devenaient chrétiens. C'était un peu ça, là. Mais la société humaniste dans laquelle on est actuellement a enlevé la notion comme de quoi Dieu existait. Donc, Dieu n'existe pas. Et même si c'est impossible de connaître la vérité existe. Et aujourd'hui, il faut essayer de prouver que la vérité existe avant de dire que tu peux connaître la vérité. Avant ça, les gens disaient, oui, la vérité existe, je veux la connaître. Aujourd'hui, il faut dire, lui prouver que la vérité elle existe, parce qu'ils pensent qu'elle n'existe pas, qu'elle est multiple, qu'elle est impossible. Et Jackie Charpentier, la femme de M. Charpentier, je parlais tout à l'heure, elle évangélise, elle, dans Montréal-Nord, elle évangélise les immigrants. Puis elle disait que les immigrants non-québécois, là, ils avaient une notion de Dieu plus grande que les Québécois. Parce que la plupart dans leur pays d'origine, là, il y avait, je ne sais pas quelle pourrait être leur religion, là, mais il y avait une notion de Dieu plus profonde que chez l'ensemble des Québécois. C'était plus facile. Tu partais un petit peu moins loin. Et elle a eu un ministère assez fructueux dans Montréal-Nord, beaucoup, beaucoup de conversions pour la grâce de Dieu. Donc, une autre suggestion pour rejoindre un non-croyant, être authentique et transparent. On n'est pas attiré par les personnes parfaites, mais par les personnes qui sont honnêtes et authentiques. Et le manque d'authenticité chez les chrétiens, ça peut repousser les non-croyants. Il ne faut pas faire semblant qu'on est parfait, on n'a pas de défaut, puis on est correct. On a encore nos faiblesses et nos défauts. Demander à nos proches, à notre conjoint, notre conjointe. Donc, ne pas essayer de prouver qu'on est parfait et que tu dois être comme moi, venir parfait comme moi. Non, je suis un pécheur perdu. Joël est dit crotté, lui il a dit crotté. C'est ça, je suis crotté en dedans. Dans le fond, j'ai beau me laver, mais je reste crotté. Donc, j'ai besoin d'être blanchi par Jésus. Mais je demeure avec un cœur tortueux, c'est ça. Donc, pas besoin de prouver qu'on est parfait. On a tous besoin de la grâce de Jésus-Christ. Et dans le livre de Bill Hybels, « Comment devenir un chrétien contagieux », il raconte une histoire. Au début des années 80, c'est un reporter, journaliste au Chicago Tribune. Il a commencé à fréquenter l'église pour faire plaisir à sa femme. « Je vais y aller, je vais y aller. » Et quand il est arrivé à l'église, il dit qu'il a allumé son détecteur, son radar de détection de hypocrite. Parce que d'ici, je peux voir qu'il y a des hypocrites dans la gang. Moi, je suis bon, dès que je suis sage. Il dit, je vais dire, c'est pas vrai, c'est une gang de menteurs. Puis je vais pouvoir dire, je ne vais plus à l'église, puis je rejette Dieu. Il a allumé son radar. Sauf que le radar n'a pas fait de bip-bip. Il n'en a pas trouvé. Et c'est une église, je ne veux pas être une église parfaite, mais il a réalisé que c'était des gens sincères, imparfaits, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour vivre leur vie chrétienne avec Dieu. Mais qui n'était pas parfait. Et devant ça, ben, il a continué à cheminer, et de athée, il est devenu croyant, il a reconnu ses péchés, il a été sauvé. Donc, juste le fait de voir l'authenticité des croyants, pour lui, ça a été déterminant. Même vos enfants vont savoir si vous êtes authentique ou pas. Hein? Les enfants le voient très facilement, ils ont un radar, ils ne savent pas. Okay? Donc, ne pas paraître comme étant super spirituel ou sans défaut. Oh, vous autres, vous êtes parfaits. Vous ne faites pas de mal, faites pas de péché, faites rien. On nous dit ça des fois, hein, les chrétiens sont de même. Je donne un exemple. Notre premier ministre, M. Justin Trudeau, quand il était à l'opposition, sans qu'on lui demande, il a dit, « Oh, quand j'étais jeune, j'ai déjà fumé de la marijuana. » Ils n'ont pas demandé rien, puis lui, il dit ça de même. Je pense, je ne vais pas lire dans ses pensées, mais je crois que c'était pour paraître authentique. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne recherche pas les gens parfaits, mais les gens qui reconnaissent leurs fautes. Donc, lui, c'est un signe d'authenticité, OK, d'avouer ça. Et je crois qu'il a pu gagner une partie de l'électorat à cause de cela. Les jeunes ont commencé à l'aimer. Ils l'aiment encore. Et comme chrétien, on communique quelque chose qui n'est pas juste du bout des lèvres, mais c'est quelque chose qui vient du centre de notre existence, quelque chose qu'on a vécu de profond. Et ce n'est pas des phrases toutes faites, puis ennuyeuses, puis plates. On parle vraiment du fond de notre cœur. Et si les gens voient la joie qu'on a, ils vont dire, « Voyons, quoi qu'on n'a pas d'autre? » Et j'ai une madame qui nous donnait de son témoignage là, qu'elle voyait les gens qui avaient quelque chose de spécial qui venait ici. Et ça l'a attiré. Et il est difficile de communiquer la vérité si on n'est pas vrai nous-mêmes. Si on est fou, là, les gens ne croiront pas ce qu'on dit, c'est sûr. Donc, on aime les gens qui savent reconnaître leur erreur et on aime les gens qui disent la vérité même si ce n'est pas à leur avantage. Des fois, en disant la vérité, oups, c'est pas le fun. Mais on l'a dit pareil. Puis, c'est mieux comme ça. Je me souviens au travail, moi j'ai travaillé dans le domaine municipal, puis à un moment donné, un conseiller, il a dit, « Yvan, dans sa religion, lui, il n'a pas le droit de faire de mensonges. » C'était pas tout à fait une religion, mais dans le fond, parce qu'il avait essayé, il m'avait testé. Alors on va lui dire ça, on va dire ça. Non, moi, je dis pas de même. Dans le fond, le fait qu'on fasse ça, ça donne une crédibilité. Mais je suis pas parfait. Ne me voyez pas comme parfait. Pour ça. Des fois, chez nous, on a du fun parce que moi et ma femme, les gens pensent qu'on est sérieux. On rit. Mon église, ils pensent qu'on est sérieux. On est déjà sérieux, mais on est fou en même temps. On est les deux. On va dire que c'est d'équilibre. Donc, une autre chose, ne pas prétendre que si tu deviens chrétien, Jésus va régler tous tes problèmes. Hein? On enseigne ça, j'ai déjà pensé que Dieu réglait tous mes problèmes depuis ma vie chrétienne, mais ce n'était pas le cas. Et c'est pas ça qu'il faut annoncer. « Ah, viens Jésus, tu souffres, tu ne souffriras plus, Jésus va t'aider. » Non, ce n'est pas le cas. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est sans souffrance, mais quelqu'un qui se confie en Dieu dans la souffrance. Il y a un support dans la souffrance. C'est ça qui est important. Okay? Donc, le chrétien est une personne heureuse malgré la souffrance parce qu'il a trouvé un sens à sa vie et il a l'assurance de l'éternel. Donc, le fait d'exprimer des sentiments de tristesse, de chagrin, de souffrance, ça ne veut pas dire que tu as une foi faible ou une faiblesse de caractère. Tu peux dire que tu souffres, tu peux dire que tu as de la misère. « Ah, notre Seigneur, tu n'as pas de problème. » Non, il ne faut jamais dire ça. Donc, oui, le Seigneur permet qu'on ait des difficultés. Ça arrive, c'est normal. Et le fait qu'on les avoue, ben, là, on peut même recevoir de l'aide. Les gens vont dire « Oh, ils sont authentiques. » C'est vrai qu'ils vivent ça. Et on l'expérimente dans les groupes vie. C'est un endroit, je vais faire un peu de promotion, dans les groupes vie, où on peut s'ouvrir, dire qu'on souffre. Les gens prient pour nous, ils nous aident, ils nous consolent. Aussi, ben, dans le même... chose, de ne pas prétendre que si tu deviens chrétien, tout va régler tes problèmes. L'évangile de la prospérité, c'est vraiment très populaire de dire si tu es chrétien, puis tu vas devenir riche. Donc, Jésus n'est pas mort sur la croix pour me rendre riche matériellement, mais pour me sauver, me rendre riche spirituellement. Et l'apôtre Paul disait qu'il était pauvre matériellement, mais qu'il en enrichissait beaucoup de gens. On parle de spirituellement. Okay? Donc, attention à cet évangile-là. Et ne pas mettre l'accent aussi sur le bien-être, notre guérison, mais plutôt sur l'obéissance et la personne de Dieu. Dieu en fait encore des guérisons en passant. J'ai été témoin de quelques guérisons depuis que je suis croyant. Et j'ai été témoin. Dieu l'a fait. Je ne suis pas un guérisseur. Mais je suis certain que Dieu guérit. Mais ce n'est pas ça qu'il faut rechercher en premier. C'est Dieu, la parole de Dieu, fait ce qu'il nous demande. Et lui dire, si Dieu est capable de guérir, si tu veux, fais-le. Il le fait, mais selon sa volonté et en son temps. Et c'est pas moi qui décide, c'est lui. Aussi, ça va un peu dans la même chose que l'authenticité, aimer le non-croyant. Si on veut que le non-croyant soit sauvé, c'est parce qu'on l'aime. Si on les aime pas, on leur parlera pas de Jésus. Et le non-croyant doit se sentir aimé et apprécié. Faut pas qu'il dise « Ah, faut pas dire, je vais lui prochain savon, on va tout lui donner le message, il va l'avoir, il fera ce qu'il veut avec, moi je suis libre du sang, son sang. Non. Là, on ne sera pas libre à ce moment-là. Mais y aller avec amour, avec douceur. Et pas pour l'embarquer, c'est parce qu'on l'aime et qu'on veut son bien. Et on doit chercher à comprendre l'autre avant de chercher à être compris. Souvent, là, on y amène plein d'affaires, puis on ne répond même pas à son besoin. On laisse parler. Ah oui. Ah ben moi aussi, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Ah, oui, d'accord, moi c'est un point, ça va bien. Ça aide, tu sais. Donc, chercher à comprendre l'autre avant d'être compris. Et une des raisons pour laquelle Jésus a demandé à ses disciples d'être extrêmement bienveillants, c'est que les actes de miséricorde, ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur. comme rien d'autre ne peut le faire. Et la semaine dernière, Joël a prêché, là, aimez votre Dieu, tout votre cœur, etc., votre prochain. Et ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, si vous avez vraiment de l'amour les uns pour les autres, et pour les non-croyants, ben, ils vont reconnaître que vous êtes ses disciples. Et sans qu'on le réalise, notre amour pour le non-croyant va ouvrir son cœur. Et le moindre acte de bonté, ça donne une puissance d'attraction qu'on ne peut pas douter. C'est pour ça des actes de service, vous avez les non-croyants. Et choses comme CAPED aussi, ça arrive. Mais il peut y avoir des choses qui sont plus informelles, qu'on peut aider. Un voisin, un ami, etc. Et faire le mille supplémentaire qu'un autre ne ferait pas, ça touche vraiment le cœur du non-croyant. Et dans la même veine, développer des relations. La plupart des chrétiens que je connais, je dirais peut-être 80-90%, ont été conduits au Seigneur par un ami, un proche, quelqu'un en qui il y avait confiance. Et j'ai dit tout à l'heure que la prédication est une folie pour ceux qui les non-croyants. Si c'est une personne en qui on a confiance, qui nous parle de ça, ben on va dire, ben, il n'est pas fou dans le fond. Et je donne un exemple personnel. Moi, c'est mon grand ami qui m'avait parlé du Seigneur. J'avais 21 ans. Et j'avais une confiance indéfectible en lui. Je le connaissais depuis une dizaine d'années peut-être. Et je savais qu'il voulait mon bien. Je savais qu'il voulait que je trouve ce qu'il avait trouvé. Qu'il voulait pas m'embarquer. OK? Mais je comprenais rien ce qu'il me disait. Il me donnait une Bible, il m'expliquait des affaires, puis son salut. Je comprenais absolument rien. Il m'en parlait, j'aurais dit, t'es fou, là. Mais je savais qu'il était pas fou, je le connaissais. Puis je voyais aussi la transformation. Ce gars-là, depuis 3 semaines, là, il chantait, il sifflait. À un moment donné, il parlait juste de la mort. Il avait peur de la mort. Il faisait peur. Même des fois, j'avais peur de lui parler. Mais là, il chantait. J'ai trouvé ce que je cherchais. C'était vraiment un témoignage vivant. Donc, un témoignage vivant, c'est qu'est-ce qu'il y a plus de force. Et moi, ça ne m'a pas lâché, ce que j'avais vu chez lui. Ça a pris un an et demi quand même. J'avais la coin dure, mais le Seigneur le savait. Et quelqu'un dit, vous êtes probablement la seule Bible que les gens liront. Les gens ne lisent pas la Bible, mais en voyant votre témoignage, votre vie, ils vont voir qu'est-ce que Jésus produit, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit dans quelqu'un. Quand Pilate avait Jésus devant lui, il a dit, qu'est-ce que la vérité? Il y avait la vérité devant lui. Et Jésus venait juste de lui dire, je suis venu pour un témoignage à la vérité. Et quand on voit Jésus et Pilate, on a comme deux solitudes. La première, Jésus, créateur du monde, la vérité qui est venue pour un témoignage à la vérité, sauveur. Et l'autre solitude, c'est Pilate, qui représente le monde actuel, qui ne croit pas à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il n'y en a pas de vérité. Et ici ce matin, il y a deux catégories de personnes bien distinctes. J'espère que vous êtes dans la première, dans le sens que la première, c'est quelqu'un qui a reconnu Jésus comme son sauveur. Il a reconnu que Jésus était la vérité et il n'a pas juste reconnu ça, il a agi en conséquence. Il a reconnu ses péchés, il a demandé à Jésus de lui pardonner, de le sauver pour l'éternité, reconnu qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, qu'il était perdu. Première catégorie. Deuxième catégorie, il y en a juste deux dans le monde. La deuxième, c'est ceux qui ressemblent à Pilate. Pas que vous avez envoyé Jésus sur la croix comme lui l'a fait, mais Pilate qui refusait de reconnaître que Jésus était la vérité. Vous êtes dans un ou l'autre. Et un jour ou l'autre, on a à prendre position. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Pilate, il avait Jésus, là. Qu'est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que vous faites avec Jésus? Qu'allez-vous faire avec Jésus? C'est important. Votre destinée éternelle en dépend. Et je peux comprendre que vous puissiez être sceptique de suivre Jésus, et je ne peux pas vous convaincre ce matin, là, si c'est la première fois que vous venez, que c'est Jésus et la vérité. Je crois que vous allez faire vos propres recherches vous-même, et je ne vous demande pas d'avoir une foi aveugle. Donc, continuez à lire la Bible, à rechercher, un peu comme ce monsieur-là, et continuez à chercher, à fouiller pour connaître la vérité. Même l'apôtre Thomas, on l'a reconnu pour ses doutes. Vous dites là, Jésus, j'ai des doutes, je veux croire, je ne peux pas croire. Comme je crois, c'est Saint-Thomas, il a dit, je veux croire, viens au secours de mon incrédulité. Le fait d'admettre notre incapacité à croire, Jésus intervient, Saint-Esprit intervient. Donc l'apôtre Paul, on le taxe d'incrédule, mais Jésus aurait pu dire, pas Paul, pardon, Thomas, tu ne crois pas, tasse-toi. Non, Jésus lui a apparu. Il a reproché son incrédulité, c'est sûr, mais Jésus lui a apparu pour le convaincre, qu'il était vraiment ressuscité et qu'il pouvait lui faire confiance. Donc, Jésus comprend votre incrédulité, mais ne demeurez pas dans cela. Demandez à Jésus de vous montrer vraiment qui il est. Et je t'encourage à lui demander sincèrement de se révéler à toi. Un verset terminé, c'est Luc qui disait, Jean, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 10, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvrira. » Celui qui cherche trouve, c'est pour moi qui ai dit ça ce matin, c'est Jésus. Et si vous continuez à chercher, vous allez trouver. Moi, j'ai cherché un an et demi, il y en a qui vont chercher moins longtemps, il y en a qui vont chercher toute leur vie, puis à un moment donné, hop, tiens, ils vont trouver. Mais le principal, c'est d'être sincère. Sincère, puis de dire, Dieu, je veux connaître la vérité, mais je ferai ce que je veux avec. Après. C'est ça que j'aurais aimé, moi. Connaître la vérité, ensuite continuer à vivre ma vie, être sauvé, puis continuer à vivre comme je voulais. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand Dieu nous révèle sa vérité, et si on est sincère, on lui dit, Dieu, révèle-moi qui tu es, ce que tu vas me révéler, quand je vais d'accord que c'est la vérité, je vais m'y soumettre. Je vais m'y soumettre parce que c'est ça la vérité. Et je me souviens, moi, quand j'étais dans ma recherche, là, je disais, Dieu, oh non, peut-être c'est même pas Dieu. Je sais pas ton nom, mais toi, là, qui m'as mis sur la terre, là, qui m'as créé, là, parce que c'est sûr que c'est pas arrivé toute seule, ça, toute cette affaire-là, l'univers, que je sois là, tu m'as créé, il y a plein de monde. Bon, je sais pas comment tu t'appelles, là, mais dis-moi qui t'es ou révèle-toi à moi. Donc, allez-y comme ça, tu sais. Mais si vous êtes certain que Dieu existe, ben, dis Dieu, Seigneur, Jésus, tu existes, oui, montre-moi, prouve-moi que tu es réel. Cherchez et trouvez. Et je vous encourage à continuer à chercher. Je vais faire un peu de publicité pour le cours de Jocelyn Aubu. Il donne un cours pour les gens qui sont en recherche, qui ça s'appelle le cours d'explorateur. Et il y a différentes choses là-dedans qui aident les gens à voir les preuves de l'authenticité de la Bible, résurrection de Jésus, le bien, le mal, les mondes invisibles, le monde invisible. Et c'est vraiment bon. Je vous disais à mon épouse déjà, si j'avais eu un cours demain, moi ça m'aurait pris un mois à connaître Jésus. J'aurais pas autant taponné, si on peut dire, autant cherché dans toutes sortes de choses. Et je vous encourage, si vous êtes en recherche actuellement, allez voir Justin, inscrivez-vous à ce cours-là. Lui, quand il y a le nombre suffisant, il va donner le cours. Donc, je vous laisse là-dessus, on va avoir un mot de prière pour terminer. Notre grand Dieu, on est reconnaissant de nous avoir conduits dans ta vérité. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, Seigneur, d'être entre les mains de celui qui est vrai, celui qui est le bon berger, celui qui est la vérité même? Quelle sécurité! Et notre Dieu, on te prie de nous garder vraiment accrochés à cette vérité-là et de nous aider à la répandre, sa vérité, dans un monde où la vérité n'existe pratiquement pas. Fais, Seigneur, qu'on soit des bons témoins et qu'on puisse vraiment répandre ton évangile. Et je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas réalisé que tu étais la vérité. Je te prie de continuer le travail que tu as commencé dans leur cœur afin qu'ils comprennent vraiment, Seigneur, le salut complet et parfait en Jésus-Christ. Et c'est dans son nom qu'on prie. Amen.